Bon, nous continuons notre série sur la théologie réformée systématique. Nous en sommes à la leçon 6. Et ce que l'on va regarder aujourd'hui, c'est on continue dans l'identification de notre identité théologique. Donc, ce qu'on va regarder cette semaine, c'est notre identité théologique polémique et expérientielle. Donc, on est à la partie 3. On avait identifié jusqu'ici 7 caractéristiques de notre théologie réformée. Premièrement, chrétienne biblique. Deuxièmement, universelle. Troisièmement, évangélique. Quatrièmement, historique. Cinquièmement, confessionnelle. Sixièmement, théocentrique. Et septièmement, alliantielle. Alors aujourd'hui, on va examiner les deux autres caractéristiques, soit polémiques et expérientielles. Ces 9 caractéristiques forment notre identité théologique. Il est important de bien les connaître afin de nous aider à comprendre qui nous sommes et comment conserver ces valeurs et les transmettre aux autres générations. La Bible utilise 2 images pour l'Église. Celle d'une armée et celle d'un corps. D'une part, nous avons l'Église comme une armée de soldats spirituels. On lit par exemple dans Nombre 1, verset 3, qui peuvent aller à la guerre. Donc, une guerre spirituelle, Éphésiens chapitre 6, verset 12, nous dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Nous devons donc être militants et polémiques en utilisant les armes divines. On lit, par exemple, dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. » Donc, on a vu, d'une part, l'Église et le corps de Christ aussi. D'autre part, 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 27. « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » On a aussi Éphésiens, chapitre 4, le verset 4, et le verset 16. Alors, on va lire d'abord le verset 4. « Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. » Verset 16, « C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties, et s'édifie lui-même dans la charité. » Alors vraiment, les deux images d'armée et de corps de Christ, si on voit les versions, on aurait pu aller beaucoup plus loin en développant ces deux points-là. Le premier point qu'on va regarder, aujourd'hui, la théologie réformée dans sa perspective polémique. Notre théologie doit démontrer par l'expérience des qualités de vitalité et d'authenticité d'une vie remplie de fruits spirituels. Les croyants dans lesquels Christ demeure par la foi et par le Saint-Esprit en manifesteront des évidences. On peut le voir dans Éphésiens chapitre 3, versets 16 et 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. La théologie réformée, dans sa perspective polémique, est en guerre, bien sûr, contre la fausse doctrine et les faux enseignants. Un des aspects de cette guerre est la conservation pure de ce qu'est la grâce souveraine de Dieu pour le salut. Cet aspect est souvent appelé les doctrines de la grâce. Les anglophones ont utilisé l'acronyme TULIP et on va regarder un petit peu la définition de chacune des lettres. Donc, T, c'est pour Total Depravity ou Corruption totale de l'homme. U, c'est pour Unconditional Election ou Élection non conditionnelle. L, c'est pour Limited Atonement ou Expiation particulière. I, c'est pour Irresistible Grace ou Grâce irrésistible. P, c'est Perseverance of the Saints ou la persévérance des saints. Alors, historiquement, ces cinq articles ont été définis en réponse à la controverse théologique concernant la compréhension biblique du salut telle que définie dans les Saintes Écritures. La réponse officielle a été exprimée dans le document qui s'appelle « Les canons de Dordrecht ». Alors, l'arminianisme est un courant théologique protestant fondé au début du 17e siècle sur la base des idées du théologien néerlandais Jacobus Arminius. Ses partisans furent appelés les remontrants en raison de la remontrance qu'ils adressèrent en 1610 aux États de Hollande. Celle-ci exprimait une tentative de modération des doctrines du calvinisme, notamment sur l'interprétation de la prédestination. Le synode de Dordrecht fut convoqué en 1618 pour examiner les cinq articles des remontrants qui exprimaient l'arminianisme hollandais. Donc, c'est une réponse à un document qui avait été publié par les Arméniens, qui était en cinq points, et la réponse a été donnée justement pour réfuter les cinq points et démontrer qu'ils n'étaient pas vraiment bibliques. Donc, l'arminianisme en tant que doctrine a été développé par plusieurs théologiens, notamment Arminius, pour ce qui est de l'arminianisme classique, et John Wesley, pour ce qui est de l'arminianisme wesleyen. Plusieurs confessions protestantes ont été influencées par les vues arminiennes. Toutes les confessions de foi réformées ont rejeté l'arminianisme comme non biblique. Donc, la quintessence des cinq points, ou l'essentiel des cinq points du calvinisme, est que Dieu sauve les pécheurs par sa grâce souveraine en Jésus-Christ. Le Seigneur déclare, dans Romains chapitre 9, les versets 11 à 16, « Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et qu'ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là, car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. La grâce est souveraine en ce que Dieu règne sur toute la création en tant que roi tout-puissant, et sauve donc des pécheurs particuliers par son pouvoir souverain et selon sa volonté immuable. Notre but est d'introduire les doctrines de la grâce en tant qu'enseignement typiquement réformé. Les chrétiens réformés se doivent de connaître, de défendre, de promouvoir et d'enseigner le document historique qu'on appelle les canons d'Ordrecht. Alors, j'ai fait une recherche sur Internet et j'ai trouvé que dans Wikipédia, on en fait une présentation. Alors, ceux qui vont télécharger le document vont se rendre compte que j'ai copié cette partie-là de Wikipédia. Et à l'intérieur de ça, il y a des liens. Et si vous cliquez sur les liens, il va y avoir certaines parties de cette déclaration-là qui vont être développées encore plus. Alors, je vous lis la présentation de Wikipédia. Les canons d'Ordrecht ou canons de Dort, officiellement intitulés Décision du Synode de Dordrecht concernant les cinq points principaux de la doctrine en débat aux Pays-Bas, sont les conclusions du Synode national tenu dans la ville hollandaise de Dordrecht en 1618 et 1619. Il constitue une partie des trois formes d'unité. On va voir tantôt qu'est-ce que c'est les trois formes d'unité. Aujourd'hui, les canons d'Ordrecht forment une des normes confessionnelles de plusieurs églises réformées dans le monde, y compris aux Pays-Bas, en Australie et en Amérique du Nord. Leur utilisation continue comme norme cause toujours un problème insurmontable, empêchant la coopération étroite entre les disciples de Jacobus Arminius, les Remontrants et les églises réformées néerlandaises. Ces canons sont en réalité une décision juridique sur les points doctrinaux en débat lors de la polémique arminienne de cette époque. Après la mort d'Arminius, ses disciples présentèrent au gouvernement et aux assemblées de Frise et de la Hollande une remontrance publiée en 1610 en cinq articles exprimant leur point de divergence avec le calvinisme le plus strict de la Confessio Belgica. Les canons sont le jugement du synode contre cette remontrance. Malgré tout, la doctrine arminienne reçut plus tard la reconnaissance officielle de l'État et a depuis persisté sous diverses formes au sein du protestantisme. Les canons n'ont pas été prévus pour être une explication complète de la doctrine réformée, mais seulement un exposé des cinq points de doctrine en débat. Ces canons exposent ce qui est souvent désigné sous le nom des cinq points du calvinisme. Alors, on disait qu'on définirait qu'est-ce que c'est les trois formes d'unité. Les trois formes d'unité, c'est une expression désignant l'ensemble formé par trois documents historiques du protestantisme réformé. Premièrement, la Confession Belgica. Deuxièmement, les canons d'Ordrecht. Et troisièmement, le catéchisme de Heidelberg. Ces confessions de foi reflètent les préoccupations doctrinales du calvinisme d'Europe continentale et sont acceptées comme déclaration officielle doctrinale par beaucoup d'églises réformées. Alors là, je donne une recommandation à ceux qui téléchargent les leçons, qui sont sous forme de PDF sur le site web. Alors, je vous donne des outils pour aller étudier ces documents-là de façon un petit peu plus détaillée. Alors, pour les canons d'Ordrecht, il y a un site spécialisé qui va non seulement donner l'ensemble du texte en français sur ce que c'est les canons d'Ordrecht, leur réponse aux attaques des Remontrants ou des Arméniens. Donc, c'est un site web, j'ai marqué le lien dans le document. Donc, vous aurez seulement qu'à cliquer dessus pour à pouvoir lire l'ensemble du texte vous-même sur le web. Et il existe aussi un document, un texte des canons d'Ordrecht qui est au format PDF que vous allez pouvoir trouver sur le site web Ressources chrétiennes. Alors là aussi, j'ai mis le lien, vous aurez seulement qu'à cliquer dessus, vous allez pouvoir le télécharger. C'est très bien fait. Et c'est vraiment un document bien structuré et aussi facile à lire parce qu'il est dans le format des PDF. Et c'est vraiment vraiment bien fait. Et je vous recommande aussi le livre du pasteur Paulin Bédard, qui est un pasteur de l'Église réformée baptiste de Saint-Georges en Beauce. Donc ça, c'est une étude doctrinale sur les canons de Dordrecht. Autrement dit, ce qu'il a fait, il a pris les canons de Dordrecht et il les explique en détail. C'est dans un volume. Je ne saurais trop vous le recommander. Donc, il s'appelle Le solide fondement du salut, étude doctrinale sur les canons de Dordrecht. Encore là, je vous ai mis le lien sur le web où vous allez pouvoir acheter le livre. Moi, je ne saurais trop vous le recommander. Je l'ai lu personnellement et c'est un livre qui est vraiment édifiant et qui va fortifier votre compréhension de la doctrine du salut souverain en Jésus-Christ. Donc, l'étude de ce document fortifiera très certainement votre foi. Il exigera cependant un sérieux effort, mais il apportera une grande satisfaction et une compréhension solide de la doctrine du salut. Tu sais, des fois, on peut être hésitant à vouloir acheter un livre pareil et prendre le temps de le lire, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on lit d'un couvert à l'autre comme un roman. C'est quelque chose sur lequel on a besoin d'aller voir les versets, on a besoin de réfléchir. Et c'est important de connaître ces choses-là parce que c'est encore aujourd'hui un sujet de controverse et on a besoin de bien connaître ceux qui ont défendu notre point de vue depuis des siècles. Alors, on rappelle aux lecteurs, ceux qui vont lire, ou à l'auditeur, ceux qui vont entendre le sermon sur Internet, que le calvinisme va beaucoup plus loin que les 5 points classiques du document qu'on appelle les 5 points du calvinisme. Donc, les canons de Dordrecht incluent des doctrines plus larges, comme la doctrine de Dieu lui-même, la doctrine de l'anthropologie biblique, la doctrine de Christ, la doctrine de l'Église, la doctrine de l'eschatologie. Autrement dit, c'est pas à cause qu'on a étudié 5 points qu'on a compris l'ensemble du système de la théologie réformée dans son ensemble, qui est, comme on vient de le mentionner, c'est beaucoup plus large et on a besoin de continuer nos études en théologie. Donc, on arrive au deuxième point, qui est une théologie expérientielle. Autrement dit, le premier point, c'était polémique. Autrement dit, depuis le début, il y a toujours eu des personnes qui se sont opposées aux doctrines de la grâce et le combat va continuer jusqu'à la fin. Alors, quand on dit polémique, faut être conscient qu'on a adopté un système qui est controversé, mais ça ne veut pas dire à cause qu'il est controversé, qu'il est faux pour autant. Bien au contraire. Alors, on va regarder le deuxième point, celui d'une théologie expérientielle. La théologie réformée n'engage pas seulement l'esprit, mais aussi le cœur, qu'on pourrait dire le comportement de tous les jours. La religion expérientielle est le christianisme porté au cœur. Ce n'est pas une connaissance de tête, une simple spéculation intellectuelle, mais une connaissance intérieure, savoureuse, du cœur qui transforme la vie. Par savoureux, les puritains entendaient que les grandes vérités révélées dans les Écritures ont une bonté et une saveur qui peuvent être goûtées et savourées par l'homme intérieur. On lit par exemple dans le psaume 34 au verset 8, Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Donc la perspective expérientielle transforme notre approche de la théologie à partir du moment où nous ouvrons nos Bibles. Gerald Bikes, Bilkes, écrit Un test pour savoir si vous lisez de manière expérientielle est de voir si, dans le processus de lecture de la Bible vous lit vous-même. Bikes poursuit en expliquant que nous ne devrions pas lire la Bible simplement pour saisir ses enseignements, mais le faire pour que la parole de Dieu nous saisisse et nous révèle à quel point elle est spirituelle et nous amène à la soumission à Dieu. La théologie centrée sur Dieu vise à façonner des âmes centrées sur Dieu. Le grand dessein et l'intention de la fonction du prédicateur chrétien est de restaurer le trône et la domination de Dieu dans l'âme des hommes. La théologie réformée fournit la base pour distinguer l'expérience des croyants de celle des inconvertis, afin que chacun puisse discerner s'il a la vie éternelle. Le catéchisme de Heidelberg demande « Combien de choses te faut-il savoir pour que, jouissant de ce confort, tu puisses vivre et mourir heureux? » Et elle répond « Trois. Le premier, combien mes péchés et mes misères sont grands. Le second, comment je peux être délivré de tous mes péchés et de mes misères. Et le troisième, comment j'exprimerai ma gratitude à Dieu pour une telle délivrance. Cette triple manière d'expérimenter la béatitude et le réconfort en Christ suit le modèle de la doctrine expérimentale révélée dans l'épître de Paul aux Romains, cette partie de la Bible qui, plus que tout autre, Dieu a utilisée pour déclencher la réforme. Alors, la première chose, la connaissance expérientielle de notre péché et de notre misère. On peut en parler comme des trois choses qui étaient nécessaires. La théologie réformée décrit non seulement le sort ou la destinée éternelle de l'homme, mais cherche à lui inculquer un sens intérieur de la colère de Dieu contre tout péché. On lit par exemple dans Romains chapitre 1, versets 18 et 19, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Alors il emploie la sainte loi de Dieu dans l'une de ses fonctions vitales pour produire la connaissance du péché. On lit par exemple dans Romains chapitre 3, verset 20, « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Les doctrines de la grâce nettoient l'influence corruptrice de la justice propre. Cela est nécessaire pour éveiller les pécheurs à leur terrible besoin de Christ, pour amener les croyants à grandir dans l'humilité et surtout pour ouvrir nos esprits à la connaissance de Dieu. Le théologien John Owen a écrit « Celui qui a des pensées légères sur le péché n'a jamais eu de grandes pensées sur Dieu. » Deuxième point, on a parlé qu'on avait besoin de la connaissance expérientielle de notre délivrance en Christ. La théologie réformée, tout en abaissant le pécheur, l'élève aussi avec joie et espérance par le Christ. Ces doctrines du salut par la grâce seule et de la justification par la foi seule, par la médiation du Christ seul, ont mis un champ dans nos cœurs et de la force dans nos mains. Paul écrit dans Romains chapitre 5, versets 1 et 2, « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'expérience de la gloire de Dieu. » Et le troisième point qui était nécessaire, c'est la connaissance expérientielle de la manière d'exprimer notre reconnaissance. Nous ne faisons pas de bonnes œuvres pour être sauvés. Au contraire, nous faisons de bonnes œuvres parce que nous sommes sauvés. L'amour du Christ fait que les rachetés ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. On lit par exemple dans 2e Épître aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 14 et 15, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Paul exhorte les croyants, disant dans Romains chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La gratitude, ce mouvement intérieur d'amour, jaillissant en réponse à l'amour de Dieu, pousse le croyant à faire bien plus pour Dieu que la culpabilité et la peur servile ne pourraient jamais produire. Le théologien Cotton Mather a écrit « Si je peux, dans un acte quelconque d'obéissance ou de soumission à la volonté de Dieu, lui être un spectacle reconnaissant, ou s'il peut se satisfaire de ce qu'il m'aide à être et à faire devant lui, c'est la plus haute félicité que je puisse souhaiter, le sommet de mon ambition. » Donc, l'idée générale, c'est vraiment la soumission joyeuse à notre Dieu d'alliance et la marque de la théologie réformée. La théologie réformée se résume donc à l'accomplissement pratique de la volonté de Dieu dans le monde de Dieu. Cette pratique ou exercice de gratitude est résumée dans Romains, chapitre 12 à 15. L'amour du Christ pour nous nous pousse à servir humblement son Église selon nos dons spirituels, à supporter patiemment les ennemis et à vaincre le mal par le bien, et à se soumettre aux autorités que Dieu ordonne. Quand je vous dis 12 à 15, là, à l'intérieur du texte, je vous ai mis les versets. Chaque fois que j'avance une partie de phrase, il y a toujours des versets situés dans le livre de Romains et qui prouvent ce qui est avancé. Ensuite, la grâce du Christ nous pousse à obéir aux 10 commandements dans un esprit d'amour, chapitre 13, versets 9 et 10, à nous purifier de la mondanité et de l'impureté dans l'espérance de la seconde venue du Christ et à vivre dans la douceur envers les frères chrétiens, même lorsque nous ne sommes pas d'accord, afin que nous puissions adorer Dieu d'une seule voix et avec une grande joie. L'Évangile nous fait, avec Paul, lutter par nos prières et notre héritage personnel pour la propagation de la bonne nouvelle, afin que les nations soit une offrande agréable à Dieu, un grand sacrifice vivant sanctifié par le Saint-Esprit. Cette gratitude coule de nos cœurs, dit Paul, alors que nous contemplons les miséricordes de Dieu. Alors David, sachant que la grâce souveraine de Dieu l'a sauvé de la mort et d'un malheur épouvantable, s'offre à nouveau au service de Dieu en disant, dans le psaume 116, versets 16 à 18. « Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur, fils de ta servante, tu as détaché mes liens. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. » Alors, j'ai mis 3 applications de cette brève étude. Alors, c'est certainement, quelqu'un qui achète le livre de Joel Bickey, il y a encore plus de matériel que ce que j'ai pu garder pour les besoins du format et du temps alloué pour étudier une leçon. Alors, première application. Rappelons-nous constamment que nous sommes en guerre spirituelle. L'ennemi ne cessera jamais d'essayer de nous amener dans la confusion théologique. L'antidote historique utilisé par les chrétiens a toujours été une connaissance approfondie des doctrines fondamentales de notre foi. Nous avons le devoir de bien connaître certains documents qui caractérisent la foi réformée, tels que les canons de Dordrecht, pour nous affermir, pour les promouvoir et pour transmettre la vérité biblique du salut. Nous lisons par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 3 à 5. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Deuxième application, reconnaissons le lien vital qui existe entre la bonne connaissance doctrinale et notre comportement dans la vie de tous les jours. En un mot, notre théologie se reflète concrètement dans notre manière de vivre pour exprimer notre gratitude envers la miséricorde et la grâce du Seigneur. Que l'Éternel soit béni, loué et exalté éternellement pour nous avoir donné la glorieuse personne de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen.
Amen.